BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous, bienvenue, il est 9h30 pile, vous êtes en direct sur BFM Business. On est parti pour une heure de débat et controverse avec les experts du jour. Et une question explosive ce matin, pourquoi les Français ont-ils toujours le sentiment de beaucoup travailler pour finalement toucher si peu? Gabriel Attal relance le grand débat du net et du brut. Le MEDEF, lui, propose de son côté un Big Bang, moins de cotisations, plus de TVA sociale et jusqu'à 2 euros net de plus par heure travaillée. Mais qui va payer la facture? Les consommateurs, les retraités, les entreprises? On parlera aussi de cette réforme sociale qui commence sérieusement à tanguer, l'allocation sociale unique. Sur le papier, simplifier le système paraît évident, mais en pratique, la réforme ferait aussi des millions de perdants, y compris parmi les ménages les plus modestes. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, il y a l'autre sujet, peut-être le plus vertigineux, l'intelligence artificielle. Pour l'instant, pas de job apocalypse, nous disent certains économistes, sauf que les IA agentiques débarquent. Et là, ce ne sera plus seulement un assistant dans l'entreprise, mais parfois un salarié. De substitution, pouvoir d'achat, modèle social, emploi, IA. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle bataille du travail? Voilà pour la grande thématique des experts ce matin. Il est 9h passé de 32 minutes. Vous êtes sur BFM Business et vous y êtes bien. Allez, c'est parti. Et pour parler de ce programme dense et passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Olivier Redoulès. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Directeur des études de Rexecode. À côté de vous, Victor Lequillerier. Bonjour Victor.
Bonjour à tous.
Économiste et vice-président du think tank BSI Economics. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Jolivet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël.
Journaliste BFM Business qui revient tout beau, tout bronzé de quelques jours de vacances.
Du Péloponnèse.
Ah.
Sur les mers de Thucydide, on en parlait juste avant.
On en parlait avec Xi Jinping qui rencontrait Donald Trump notamment. Comment rapprocher le net du brut? C'est le premier thème des experts ce matin. C'est l'ambition de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui s'est présenté officiellement à l'élection présidentielle, c'était vendredi, qui a fait le 20h de TF1, grande interview dans Le Parisien et 2 heures de direct sur Brut. C'était hier soir avec un des grands piliers de son programme qui sera effectivement de renforcer les salaires et donc de rapprocher le net du brut. C'est aussi l'ambition de Patrick Martin, qui lui donnait une grande interview dans le Figaro Économie ce week-end. C'était samedi. On va essayer de voir ensemble comment faire, comment réduire ce coin fiscalo-social, comme on dit Olivier Redoulès. Chez les économistes, c'est un véritable sujet de compétitivité.
C'est un sujet multiple parce que ce qu'on appelle le coin socio-fiscal ou fiscalo-social, selon les sensibilités de chacun, ça marche dans les deux sens. En fait, c'est un ensemble de prélèvements qui viennent s'intercaler entre ce que l'employeur débourse, les dépenses de personnel qui figurent dans le compte de résultat d'une entreprise, oui, et ce que le salarié reçoit à la fin. Et donc, à l'intérieur, il y a des choses qui sont ce qu'on appelle des cotisations contributives qui permettent d'acquérir des droits, droits à la retraite, droits au chômage, qui sont assez individualisés, qui sont une sorte soit de salaire différé, c'est le nom qui circule en général de débat, oui, public, soit on peut considérer aussi que c'est une forme d'épargne forcée. Mais ça, c'est quelque chose qui est au fond du salaire. Puis après, vous avez tout un tas d'autres prélèvements qui sont en fait des impôts. Et là-dedans, vous avez la maladie, la famille, le versement mobilité, vous avez aussi la CSG, l'impôt sur le revenu. Vous avez tout un tas de choses qui sont en fait des impôts. Et le problème de tout ça, c'est qu'en fait, ça déconnecte l'effort que vous faites pour produire quelque chose, ce que le coût employeur rémunère, au fond, de ce que vous touchez à la fin. Et le problème, c'est que en France, et c'est un sujet qui est historique, en fait, on en parlait déjà dans les années 80 ou 90, on a eu tendance quand c'est la conception de la sécurité sociale de mettre, de se dire au fond on va fournir à chacun selon ses besoins, mais bon les besoins ils sont infinis. Donc de fait en fait on a mis d'abord en général les dépenses, la sécurité sociale, après on a cherché à financer. On est arrivé à des taux de cotisations et de prélèvements qui sont devenus assez exorbitants.
Faut ah oui, sur les retraites, on est à 28%.
28%, mais globalement, aujourd'hui. Le taux employeur, par exemple, il est de 45%, le taux normal employeur.
Bah oui.
Et par ailleurs, on veut aussi que les salariés, ils ont un niveau de vie assez élevé, un niveau de vie, en fait, qui se traduit notamment par des achats de beaucoup de biens importés ou autres. Et donc, au fond, au bout d'un moment, on arrive à cette situation où il a fallu mettre des rustines dans ce coin fiscalo-social, ce qu'on appelle les allègements de cotisation.
Et oui, sur les bas salaires.
Mais aussi la prime d'activité sur le côté employé.
Oui.
Et donc, on a ce qu'on appelle une forte progressivité. Et c'est ça le vrai sujet, le vrai débat, c'est qu'au fond, on a une sorte de système un peu monstrueux où si vous prenez, par exemple, les prélèvements sur les employeurs, pour les employeurs, au SMIC, qui sont autour de 5-6%, en fait, c'est
quasiment
rien.
Charge, oui.
Et puis, à 3 SMIC, en fait, ils sont à 45%. Donc, vous avez 40 points de prélèvement en plus. Donc,
évidemment, ça pèse sur les salaires.
Voilà, ça pèse sur les salaires. En fait, c'est la déconnexion qui fait que, par exemple, pour gagner 5 euros de plus en net, ben, il faut que l'employeur paye 500 euros en plus. Mais ce 500 euros, en fait, c'est le salarié qui le produit.
Ben oui, évidemment. Hein. Grosso modo, si je résume ce que nous dit Olivier Redoulès, Victor Lucky Laurier, c'est... on a un système social qui pèse trop sur les actifs.
Ouais, exactement, et je crois que c'est justement la proposition de Patrick Martin, c'est de se dire, on a à partir du moment où on veut réduire ce coin fiscal, ça veut dire qu'à partir du moment où on travaille pour un euro de plus, que ça génère davantage le salaire net. La proposition, c'est du coup plus ou moins de faire de la TVA sociale.
Ouais, on va y venir tout à l'heure. On a un peu du mal à y voir clair en réalité sur qui finance quoi maintenant. Hein. Moi, je trouve vous interrogez les Français, je sais pas ce que vous en pensez, Mathieu Jolivet, mais plus personne ne comprend rien à la fiche de paix. C'est-à-dire sur toutes ces lignes, plus personne ne les regarde d'ailleurs.
Plus personne n'y comprend rien. Il faut voir qu'aujourd'hui, vous avez à peu près sur une fiche de paye une trentaine de lignes qui sont dédiées aux cotisations sociales. Une trentaine de lignes. Il faut voir aussi d'où on part. Et je trouve ça intéressant, effectivement, la philosophie, le principe même de financement de notre modèle social, hérité de 1945, cette philosophie... Il faut pas y toucher, je pense, aujourd'hui. Mais en revanche, il faut absolument repenser tous les paramètres. Parce que...
La démographie n'était pas tout à fait la même, quoi. Hein. Oui. La pyramide des âges, peu de seniors et beaucoup d'actifs, ça s'est un peu inversé.
En 1945, quand un actif arrivait à la retraite, il avait une espérance de vie qui était à ce moment-là extrêmement faible. Donc finalement, ce que les actifs payaient pour financer les retraites, c'était sur une durée de vie, une espérance de vie qui était de seulement quelques années.
Eh oui.
Donc aujourd'hui, deux générations plus tard, les paramètres ont totalement changé. Aujourd'hui, vous avez beaucoup moins d'actifs qui financent des retraités qui sont beaucoup plus nombreux, qui vivent
beaucoup plus longtemps.
Beaucoup plus longtemps, avec des dépenses de santé qui explose. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut absolument tout reparamétrer. Et cette trentaine de lignes qu'on voit sur cette fiche de paye aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour payer le même salaire net, un patron français débourse 30 à 40% de plus qu'un patron américain ou britannique.
Bah oui.
Voilà. Donc ça c'est vraiment
à la fois ça pèse sur le coût du travail, ça augmente le coût du travail et ça pèse sur le pouvoir d'achat des salariés.
Exactement. Et en fait ce défi démographique qu'on voit avec cette espèce de grande bascule en deux générations, ça explique pourquoi on a la part des cotisations des assurances sociales dans le salaire qui sont passées, vous le rappelez tout à l'heure, elles sont passées de 16 en 1945, la part de ces assurances sociales, elle était de 16% dans les salaires. Aujourd'hui, elle a bondi de 16 à 45%.
Ah oui.
Donc là, on a vraiment dans ces quelques chiffres, on a démographique et assurantiel, on voit toute la perte de compétitivité de la France par rapport
à Olivier. Je pense qu'il faut quand même avoir quelques nuances et quand on se compare par exemple aux États-Unis, le coût du travail aux États-Unis est beaucoup plus élevé qu'en France. Il faut le savoir, ou même
les salaires sont beaucoup plus élevés.
Mais globalement, quand on prend tout à bord,
mais le coût de la santé et de l'éducation est beaucoup plus élevé.
Mais il traduit aussi une productivité qui est très supérieure Voilà. Et quand on regarde ce qu'il y a dans ces prélèvements, en fait, et c'est là où la question de la lisibilité est cruciale, en fait, c'est pas juste un gadget, c'est pas juste le fait qu'on ait 20 ou 30 lignes, en fait. C'est que la lisibilité, c'est qu'est-ce qui est du vrai salaire, qu'est-ce qui est une forme d'épargne forcée mais très faiblement rémunérée, et qu'est-ce qui est de l'impôt. Quand c'est du vrai salaire, ben voilà, on travaille, c'est un choix en fait de partage pour les personnes entre leur temps libre et leur travail. Quand c'est une épargne forcée mais faiblement rémunérée, bon, déjà c'est un peu moins incitatif, et c'est ça quand même une partie de notre système de retraite, c'est que en fait c'est un système par répartition, mais de fait, vu du salarié, ben il met une certaine somme, il reçoit quelque chose en 50 ans, mais avec oui. un taux qui est quand même très bas, en fait, qui est plus bas que ceux
qui ne cessent de se dégrader au fur et à mesure des années. Hein.
Parce que, bon, pour partie, en fait, c'est une forme de fiscalité, parce qu'on doit supporter les retraites actuelles qui seront relativement généreuses. Et puis après, ce qui est de la taxe, par contre, là, mais là, en fait, ça c'est assez désincitatif. Vous dites, oui, c'est qu'est-ce que j'en retire de mon heure de travail? Vous pouvez aussi faire le choix entre faire vous-même ou payer quelqu'un d'autre à le faire. Et quand vous payez quelqu'un d'autre, ben, vous devez vous acquitter toutes ces charges sociales. Et donc, en fait, on va dans une économie un peu du do-it-yourself, parce que dans tout plein de situations, on se rend compte, ben, recourir aux services d'autrui, ça veut dire y mettre des taxes. Du coup, ensuite, ça justifie de nouvelles niches fiscales, d'où la niche, par exemple, sur les emplois au domicile, oui. les niches sur les bas salaires. C'est pour rendre les services peu qualifié dont tout le monde a besoin, accessible, sinon en fait personne n'y recourt et tout le monde le fait tout soi-même.
C'est une question politique quand même de comprendre aussi où va l'argent que nous concédons à la collectivité. Moi je trouve que c'est une question importante quand même, celle de la lisibilité de la fiche de paie, Victor Lequillerier.
Sauf que c'est devenu de plus en plus compliqué, parce qu'auparavant, effectivement, on sait très bien que certaines cotisations sont indirectement affectées sur les aspects maladie, sur les aspects santé. Sur la TVA, c'est un petit peu moins clair. On sait ce qu'elle contribue à financer, notamment les collectivités.
Elle finance beaucoup de choses.
Elle finance aussi les dépenses de sécurité sociale. Et je pense que c'est pour ça qu'avant même de savoir comment on peut justement redistribuer du pouvoir d'achat en augmentant le salaire net, est-ce que c'est vraiment sur cette poche sur laquelle il faut s'appuyer, parce qu'on n'a pas forcément de garantie que en procédant par s'appuyer davantage sur la TVA, ça permet justement de répondre aux objectifs qui soient ceux de redistribuer du pouvoir d'achat.
Le MEDEF propose de transférer, Victor, 60 milliards d'euros de cotisations employeurs et maladies. C'est un peu le grand débat hein, qui agite les économistes, et c'est notamment depuis le livre d'Antoine Fouché, qui lui veut transférer 100 milliards de charges patronales et de cotisations sociales, salariales et patronales vers d'autres assiettes. Comment on les transfère ces 60... D'abord, est-ce que c'est normal que les cotisations famille, pour la politique familiale, reposent sur le travail? C'est un peu ça le sujet de fond.
C'est un des sujets de fond, c'est l'histoire d'allocation, mais je pense que c'est aussi, c'est pour ça qu'on dépasse le débat sur cet aspect-là, c'est que le modèle, en termes de sécurité sociale, plus ou moins à l'équilibre, et qu'il soit assez généreux, comme c'est le cas en France, c'est ceux des pays du Nord, notamment de la Suède. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on veut déplacer, en fait, le débat sur la TVA, parce que c'est ce qui a été fait dans les pays qui ont un coin fiscal qui est nettement plus faible et qui oui. permet, du coup, d'avoir un niveau de salaire net plus élevé. Et moi, j'ai un petit peu plus de doutes sur le fait, justement, que ça soit, en fait, ce type de solution qui soit privilégiée au vu des enjeux en France sur la consommation privée. Parce qu'effectivement, en Suède, au Danemark, en Norvège, ils ont un coin fiscal plus bas. Ça s'est répercuté par le fait qu'ils ont pu baisser certains types de cotisations patronales sur les salaires et qu'ils ont pu, en fait, les déplacer sur un financement via une hausse de la TVA. Oui. Ils ont un niveau de TVA qui est un peu plus élevé. En revanche, la consommation privée en pourcentage du PIB dans ces pays-là, elle est un peu plus faible. Ça veut dire que le choc fiscal que nous, ça impliquerait en France, notamment sur l'activité, il ne serait peut-être pas absorbé de la même manière. Donc, je ne sais pas si la TVA, ça soit forcément la solution...
La bonne assiette.
La bonne assiette.
Olivier, puis Mathieu.
Je pense, pour répondre à Victor, en fait, bon, ces pays-là, en fait, ils ont une consommation plus faible, parce qu'ils ont aussi, ils exportent plus, ils ont aussi d'autres moteur d'activité ouais. en fait que leur donc, a permis ces gains de compétitivité. Je voudrais quand même revenir Antoine Fouché, j'ai l'impression que sa philosophie c'est un peu différent en fait, c'est la suppression de la CSG globalement, donc c'est juste côté salarial, et de ce que je vois dans l'article du Figaro, le MEDEF, le 60 milliards en fait, ce 60 milliards c'est un gros chiffre, mais c'est pas ce que les employeurs vont recevoir en net. ce qui est plutôt de 20 milliards. La réalité, c'est qu'il y a 30 milliards qui seraient rebasculés en fait sous forme de baisse d'allègement, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a des taux faciaux très élevés, 45%, oui. On met des allègements.
Et des niches fiscales.
On a un truc très complexe. Et eux, ce qu'ils proposent de faire, ce que propose de faire le MEDEF, c'est de réduire un peu les deux, réduire le taux normal de cotisation et réduire les allègements dessus. Donc à la fin, et puis il y a 10 milliards qui iraient aux salariés, qui permettraient de soutenir les salaires nets. Donc l'avantage de la TVA, c'est que la TVA taxe les importations, taxe en fait tout ce qu'on consomme. Et c'est une taxe sur la consommation et pas sur le revenu.
Pardon, mais c'est le seul impôt qui est inférieur à la moyenne européenne en France.
C'est vrai aussi, les impôts sur la consommation sont un peu plus faibles, mais la réalité c'est qu'en fait on a tellement d'impôts que c'est que voilà, il faut faire attention avec ce genre de raisonnement. Mais par contre, et puis le vrai sujet, c'est que les cotisations, ça taxe aussi le Made in France, d'une certaine façon. En tout cas, l'impôt sur le travail. Donc, en fait, au fond, c'est ce qu'on appelle, derrière TVA sociale, en anglais, on appelle ça une fiscal devaluation. En fait, on est en train, ce principe, en fait, c'est de faire payer un peu plus les importations et la consommation, et un peu moins sa production et le travail. Et l'idée, c'est que ce soit bénéfice pour l'activité. C'est ça qu'il y a derrière l'idée philosophique.
Mathieu. Ouais.
Sur le plan budgétaire, c'est vrai que la TVA, c'est quand même un des leviers les plus tentants. On a quand même là une des assiettes les plus larges.
Première recette.
Avec une micro-augmentation, faire des rentrées assez massives. Donc, sur le plan budgétaire, ça a toujours été hyper intéressant. Après, pourquoi est-ce
Sur le plan politique.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'on y réfléchit deux fois avant d'y toucher? C'est que sur le plan politique, attention, effectivement, on est sur un point de consommation, on est sur un point qui peut toucher, même d'un point de vue infinimisial, au pouvoir d'achat. Et il faut quand même avoir en tête que les gilets jaunes, tout est parti d'une microtaxe
sur
l'énergie, et que derrière on est quand même dans un climat social ou un état d'esprit avec un sentiment général, et qui ne tient pas qu'en France, on le voit dans tous les pays occidentaux en général, un sentiment général de déclassement, et peut-être ce sentiment aussi que je n'arrive pas à vivre décemment des fruits de mon travail.
Ah oui.
Donc à partir de là,
c'est bien s'il faut adresser. Oui.
Ouais, bah voilà. Donc on réfléchit à deux fois avant d'y toucher.
Olivier.
Donc, peut-être et là on voit sans doute l'angle mort de cette proposition du MEDEF, mais qui se focalisait sur le financement à dépenses constantes. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question de où vont tous ces prélèvements, qu'est-ce qu'ils financent? Ils financent essentiellement les personnes âgées, les seniors, via les retraites et via la maladie. Et ça pose la question de comment baisser cette dépense-là. Alors, politiquement,
ou les mettre à contribution. Patrick Martin propose, dans son interview, de mettre à contribution les retraités, les plus...
Il faut sans doute faire aussi quelque chose sur la dépense.
L'Allemagne avait utilisé ce levier. Ils avaient augmenté, je crois, en 2007, ils avaient augmenté de 3 points la TVA. Un des 3 points d'augmentation devait servir justement à baisser les cotisations patronales. Et derrière, il y avait eu on avait eu notamment des effets sur l'emploi. Pour le coup, non, là c'est quand même un peu biais, des effets sur l'emploi qui étaient quand même principalement dus aux lois Hertz réforme Hertz qu'à cette augmentation de TVA, mais ça reste quand même un benchmark intéressant.
Victor.
Ouais, c'est un point intéressant qui a été soulevé. Je suis assez dubitatif et assez sceptique sur le fait qu'on arrive vraiment à actionner le caractère fiscal, en fait, pour vraiment générer. On sait que c'est le fond du problème, mais on voit bien, en fait, l'état de la France.
Ça reste de la tuyauterie, globalement. Oui, c'est sûr qu'on débranche d'un côté pour rebrancher de l'autre.
Et que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est ce que mentionnait Olivier, il y a un gros problème, c'est notamment sur le financement des retraites. Et en fait, on revient toujours un petit peu au même problème, c'est que dans l'état actuel, en fait, de notre fiscalité et du coup de notre trajectoire de déficit public, c'est difficile, en fait, de savoir vraiment sur quel pied, sur quoi s'appuyer pour vraiment, en fait, redistribuer du pouvoir d'achat via des dispositifs fiscaux.
Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre nulle part, là.
Pour l'instant, on n'en a pas. L'objectif, c'est de s'en dégager. Effectivement, c'est la proposition du MEDEF. Mais j'ai l'impression que là, c'est un peu prématuré, au moins à court terme, jusqu'aux façons des élections présidentielles. Et qu'au-delà de ça, effectivement, est-ce que c'est vraiment la TVA? Moi, je reste assez sceptique parce que, justement, c'était ce que vous mentionniez tous les deux. c'est que ça marche plutôt bien dans des pays qui sont déjà assez compétitifs en termes de compétitivité prix. Nous, c'est pas forcément le cas. Donc, on va peut-être réussir à générer des gains en termes de compétitivité prix pour les entreprises qui exportent déjà, mais au détriment peut-être d'une consommation un petit peu plus faible. Sauf que nous, notre première contribution.
Qui est déjà pas très en forme, la consommation.
La consommation est déjà
alors qu'on dit que c'est le premier moteur, normalement, de la croissance française.
Ouais, exactement.
Non, mais il faut sans doute activer les deux leviers, là. Une réforme structurelle du financement pour améliorer sa lisibilité, améliorer les incitations, c'est positif sur la productivité à moyen terme pour faire ça, mais ça va pas avoir des effets immédiats. Par contre, si on veut résoudre le problème des finances publiques, ben, il faut sans doute agir assez fortement sur la dépense. Mais même là aussi, si on veut vraiment réduire le coin social ou fiscal et le réduire en niveau et pas juste en structure, ben, il faut aussi, à un moment donné, redonner un peu plus ou moins prendre aux actifs, peut-être donner un peu moins aux retraités.
Il y a un point technique de l'interview de Patrick Martin, mais que je voulais qu'on clarifie ensemble, c'est ce transfert de 10 milliards d'euros des cotisations vieillesse patronales, salariales, pardon, vers les cotisations patronales. C'est juste un jeu de ponto, ça, en réalité, parce que...
Ça permet d'augmenter le salaire.
Que ce soit cotisation patronale ou salariale, en réalité, c'est parfaitement illusoire, non ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la distinction entre les deux est finalement superficielle ? Il y a ce que paye le super brut, que paye l'employeur, et puis au final, il y a ce que touche le salarié. Entre la deux, qu'on l'appelle patronale ou salariale, qu'est-ce que ça change ?
J'imagine que l'idée, c'est d'augmenter le salaire net, parce qu'on ne va pas changer des salaires bruts qui sont inscrits dans les contrats de travail, et donc ça permet de donner, de donner un peu d'air aux salariés.
Donc on augmente le super brut, c'est ça, de 10 milliards pour l'ensemble ?
Oui, mais il baisse par ailleurs, parce qu'il y a à la fin, les employeurs gagnent 20 milliards. Qui sont d'ailleurs une fine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les baisses de cotisations sur les employeurs, la dynamique spontanée, c'est que c'est assez largement restitué aux salariés, soit sous forme de création d'emploi, soit sous forme de salaire. Donc,
de revenus. Et un gain net de 2 euros par heure travaillée, c'est beaucoup ça ou pas ? On peut se dire que si on travaille 1600 et quelques heures par an...
Sur moi, c'est 300 euros pour un temps plein.
Ouais. Pour les bas salaires, c'est assez significatif. Mais pour rebondir aussi sur tous ces éléments... Victor Leguillerier. Je pense que l'OCDE, ils essayent justement de documenter les différentes mesures qui ont pu marcher dans d'autres pays ou qui prêtent étudier pour redistribuer du pouvoir d'achat. Donc après, il y a vraiment deux sujets. Est-ce qu'on redistribue du pouvoir d'achat directement ou ce qu'on veut, c'est vraiment augmenter le salaire net. Et il n'y a pas forcément en fait les mêmes types de politiques qui sont mises en place et qui sont efficaces.
En fait, le distinguo, augmenter le salaire net et augmenter le pouvoir d'achat, un peu.
Moi, je pense qu'il faut le faire parce que moi, je suis assez sceptique sur le fait qu'on arrivera à le faire d'un point de vue fiscal.
Ouais.
En tout cas, dans l'état actuel.
C'est pas les dépenses.
Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être étudier d'autres pistes et c'est notamment ce qui s'est passé en Allemagne sur intéresser en fait les salariés, enfin c'est toutes les politiques d'intéressement et du coup d'intégration des salariés aux performances de la société, enfin de leur compagnie,
de l'entreprise,
et que ça fait partie donc
l'actionnariat salarié
en partie, oui, et c'est ça vient aussi du coup étendre la réflexion sur tout ce qui peut être fait aussi. On a une approche uniquement par le revenu, c'est normal parce qu'on parle de revenu, de salaire net, et je pense qu'il y a aussi toute une réflexion et qui permet de rebondir sur un point qui a été évoqué, c'est tout ce qui est en lien avec le patrimoine, tout ce que le revenu qu'on peut générer en termes de patrimoine, et donc là ça revient aussi un peu avec le sujet de retraite, mais c'est que globalement les ménages les moins aisés, ils n'ont pas accès non plus à des niveaux de, enfin des une épargne rémunératrice.
Bah oui.
Et ça, c'est quand même un gros problème en France. Sachant qu'en plus, les dispositifs, l'assurance vie, ils existent déjà, c'est liquide. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'éducation financière parce que, on peut générer des effets de richesse via son patrimoine et qu'à ce stade, on n'a pas réussi vraiment à concilier ça sur l'ensemble des types de salaires. Et je pense que ça, c'est une vraie réflexion à avoir quand on réfléchit en termes de pouvoir d'achat et pas juste en termes de salaire net. C'est qu'il y a toute cette partie patrimoine, je pense, qui est un peu plus absente du débat.
Que tout le monde accède à la rente du capital. Olivier Redoulès, vous vouliez réagir.
Oui, je voudrais juste quand même rajouter un petit point pour ne pas l'oublier dans ce débat, c'est que, au fond, le vrai sujet de ces prochains mois, ça va être quand même l'équilibre des comptes publics de manière générale.
Oui.
Que là, on est en train, effectivement, de penser à perfectionner le système à moyen terme, ce qui est bien et ce qui est sans doute générateur de gains de croissance à moyen terme. Mais l'éléphant au milieu de la pièce, c'est quand même, on a 5-7% de déficit public, la Commission prévoit.
C'est ce qu'a dit la Commission européenne, oui. Toutes choses égales par ailleurs. Hein. Si on ne fait rien, on dérape à 5-7%.
Des dépenses d'intérêt qui gonflent. Et ça, c'est vraiment on dépassera, si on croit toujours les prévisions de la Commission européenne, les 120 points de PIB de dette publique l'an dernier. Et donc, en fait, on risque de se faire rattraper. par la contrainte budgétaire qui risque de devenir une contrainte extérieure beaucoup plus tôt qu'on le pense, et ça risque en tout cas de mettre en suspens ce type de discussion.
Ouais. Le chef économiste du FMI, Olivier Gourinchas, était sur notre antenne il y a deux semaines et alerté exactement sur ce sujet en expliquant que il voit bien que le sablier est retourné chez nous jusqu'à la
présidentielle, mais évidemment
jusqu'à la présidentielle, et gare aux mesures coûteuses. Et lui, il a vraiment fait une alerte sur notre antenne en disant que quelles que soient les mesures et les programmes économiques des différents candidats, il y a urgence à rester dans un cadre des trajectoires publiques, à ne pas dévier des trajectoires publiques, sachant qu'on est déjà dans une zone critique.
Oui.
Et que la conjoncture actuelle, c'est pas le sujet.
Oui, d'autant plus,
jour,
oui.
Etc. Mais avec le prix du pétrole et la guerre en Iran, le rend les capacités de projection quasi nulles. Tous ceux qui sont en train d'élaborer les budgets un peu partout dans le monde naviguent, pour reprendre une expression marine, dans la purée de pois. On a une visibilité qui est complètement nul. Donc il y a urgence à rester dans un cadre budgétaire assez discipliné.
C'est pas un message qu'on entend beaucoup dans la campagne, hein, pour l'instant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais on dirait rétablir des comptes publics, c'est pas sûr.
Je pense qu'Edouard Philippe assumera ce costume.
Oui, c'est vrai.
Je pense que ça va permettre de faire aussi peut-être la transition sur le sujet qu'on aura après, sur la location unique. Je pense que tous ces sujets-là, ils sont très difficiles à aborder dans une campagne, dans un pays qui est quand même une croissance un petit peu morose, et qu'on a bien vu que la situation des finances publiques, ça date pas d'hier, est fragile, et donc ça va être difficile en fait de trouver des arguments convaincants. C'est pour ça que le pouvoir d'achat va être un enjeu, mais à chaque fois on voit qu'on retombe sur des considérations du fiscalité, et que ce qu'on voit, c'est effectivement, c'est que c'est structurel, et que du coup les réformes, elles sont d'ampleur, et que moi j'ai du mal à voir comment on arrivera vraiment à faire un débat de qualité sur le sujet, et que la confrontation fiscale, oui, elle aura lieu nécessairement, et que on l'a vu, on a du mal à faire dépasser des réformes beaucoup plus simples.
Oui, et puis en temps de croissance, quoi. C'est un peu ça le problème aussi. C'est-à-dire qu'on répare pas le toit quand il fait beau, donc par temps de pluie, ça va être un peu plus compliqué. Hein. C'est ça, Olivier Andelès ?
Oui, alors le vrai sujet, effectivement, quand on est sous contrainte budgétaire, et quand on dit qu'on a 1% de croissance, voire un peu moins cette année, ça veut dire qu'on génère 30 milliards de plus pour tout le pays, mais qu'il faut distribuer...
En production de richesses nouvelles, oui.
Une population qui croît, il y a des intérêts qui augmentent, des dépenses qui viennent en plus, notamment liées à la transition énergétique avant, maintenant la défense. Et donc, en fait, il reste peu de grains à moudre. Et donc, une réforme, ça veut dire qu'il va y avoir des perdants. Et donc, c'est très compliqué. Je pense que c'est ça la raison pour laquelle l'ASU et l'allocation de solidarité unique pourraient être suspendues si c'est le cas. C'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que, certes, les gagnants, en fait, on les entend pas beaucoup, mais ils se plaignent pas. Mais les perdants, on les entend beaucoup. Et ça risque de venir très vite. Bon. Parce qu'en fait, comme on est allé au taquet en termes de dépenses sociales, c'est difficile de changer quelque chose sans faire des perdants qui sont forcément beaucoup.
Bon, on va voir justement, après une courte pause, s'il y aura des gagnants, mais aussi des perdants avec l'allocation sociale unique. Peut-être déjà mort-née, c'est une information dans la tribune dimanche, publiée hier. Matignon a fait retirer le projet de loi sur l'allocation unique de l'ordre du jour du Conseil d'État. On verra pourquoi ce dossier a tant de mal à aboutir, et puis on viendra sur les dernières prévisions assez apocalyptiques de l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi. Tout cela se tient évidemment. Ne quittez pas, on revient tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute, toujours avec Mathieu Jolivet, journaliste BFM Business, Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode, et Victor Le Quillerier, économiste et vice-président du think tank BSI Economics. On parle travail, on parle rémunération, pouvoir d'achat ce matin dans les experts. On va continuer avec l'allocation sociale unique, une allocation sociale unique peut-être déjà mort-née. Selon la tribune dimanche, Matignon a fait retirer le projet de loi sur l'ASU, comme on l'appelle, du Conseil du jour du Conseil d'État. Je rappelle que le texte vise à fusionner le RSA, l'allocation logement et la prime d'activité sous un seul régime. Mais un régime qui se heurte à des difficultés de mise en œuvre pratique, c'est un véritable serpent de mer, hein, cette allocation sociale unique. On en parle depuis quasiment 10 ans, 2017.
Le rapport Sirugue en parlait déjà, de Sirugue,
donc avant,
son rapport 2016.
Avant 2017, oui, avant l'élection d'Emmanuel Macron. Pourquoi c'est si compliqué, Mathieu ? Expliquez-nous.
Je pense que tout le monde le voit, c'est le fusion. En fait, ça ressemble à une montagne qui a l'air difficile à franchir quand même. Hein. On a énormément de dispositifs qui ne sont absolument pas les mêmes, qui n'ont pas la même philosophie, qui ne sont pas calibrés de la même manière, qui sont alloués selon des critères qui sont totalement différents. Donc ce que je veux dire, c'est que fusionner pour avoir un guichet unique, facile et lisible pour tous, on est tous d'accord, c'est facile à dire, mais c'est hyper difficile à faire. La prime d'activité, si vous regardez, c'est fait pour des gens qui travaillent. Le RSA, c'est fait pour des gens qui ne travaille pas. Donc comment vous faites pour marier les deux? C'est un vieux serpent de mer. Après, on voit bien que effectivement, en termes de lisibilité, tout le monde en veut et c'est difficile de le contrer. Il y a une utilité aussi qui revient souvent d'avant, c'est que je crois que le taux, vu la complexité des dispositifs actuels, si vous regardez le RSA, le taux de non-recours, je crois que c'est un tiers des bénéficiaires.
Et d'environ 30%.
Vous avez à peu près un tiers des bénéficiaires du RSA qui n'en bénéficient pas parce que c'est trop compliqué. Voilà.
Ils font pas les démarches.
Exactement. Et après, est-ce que, alors là, on a sur un plan, donc là, sur le plan technique, c'est une usine à gaz. Après, c'est vrai qu'on a quand même des technos qui sont bien outillés, on peut se dire qu'ils seraient capables de s'attaquer à cette usine à gaz. On sait fabriquer ces technos-là. Après, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on a envie pendant cette campagne présidentielle aussi de s'y attaquer, de relancer, parce que finalement derrière, c'est relancer le débat sur l'assistanat qui coûte plus cher que le travail. Voilà. Donc, est-ce qu'on a envie qui veut être le premier à lancer ce débat-là,
Victor?
Et je crois qu'il y a aussi un point très important, en tout cas comme ça a été formulé par les LR qui sont un peu porteurs de ce projet,
oui.
C'est qu'ils veulent plafonner, en fait, à ce que cette nouvelle aide qui se substitue aux trois autres soit plafonnée à 70% du SMIC.
Bah, l'idée, c'est qu'on sépare bien que le fait de retourner au travail, ça rapporte vraiment beaucoup plus que l'inactivité.
Mais, et je pense que c'est pour ça que c'est un sujet qui va être un peu mis sous le tapis, c'est parce que je pense que c'est beaucoup trop polémique et qu'en plus on a quand même pas mal d'incertitudes sur l'efficacité de la mesure. L'efficacité, alors on sait que ça va permettre d'augmenter le taux d'emploi parce que ça va être un peu incitatif pour retrouver du coup un emploi plutôt que d'être avec des minima sociaux, même si c'est notamment le chiffre de l'OFCE qui démontre que quand on vit avec des minima sociaux, généralement on vit en 40% en dessous du niveau du revenu médian. Donc ça permet quand même pas d'être un niveau de vie très élevé. Donc on sait que ça va permettre de générer, enfin de que le taux d'emploi augmente. Donc ça c'est plutôt favorable. Comme Mathieu Jolivet le précisait, effectivement, tout le monde est séduit par l'idée d'avoir un guichet unique, et ça, c'est très très bien.
Bah, ça simplifie, quoi. C'est très présenté comme une mesure sociale à un moment. Hein.
Mais le bas qui blesse, c'est sur notamment les incertitudes sur ce que ça peut générer en termes de pauvreté supplémentaire. Certes, effectivement, ça va être plus ciblé, donc peut-être que des personnes...
Alors, comment on peut avoir... Parce que moi, ce que j'avais vu, c'était qu'on avait quand même près de 3,8 millions de foyers gagnants et que ça ferait baisser le taux de pauvreté monétaire de 0,5 points.
Le Monde s'est procuré une étude d'impact qui a l'air de dire qu'il y aurait aussi 4 millions de perdants. Il y aurait 4 millions de...
Des perdants,
nécessairement. 4 millions de personnes qui font partie des plus défavorisés qui perdraient une cinquantaine d'euros par mois. Donc,
dont 1,35 million parmi les 20% de ménages les plus pauvres. Mais comment on fait des perdants dans une telle réforme, Olivier? Mais
en fait, on a une enveloppe constante. Donc, si vous faites des gagnants, vous faites forcément des perdants. Et la question, en fait, c'est de faire une sorte de judo où on On prend aux poches peut-être les moins efficaces, qui sont les moins encourageantes pour l'activité, pour donner aux autres et pour créer de l'incitation. Et donc, de fait, en fait, du fait qu'on ait une enveloppe constante, toute réforme, sauf si elle change rien du tout, va faire des gagnants et des perdants. Et le problème, c'est toujours un peu pareil dans les réformes. On a vu ça au moment des APL, au moment de la bascule CSG cotisation 2018 ou autre. C'est que on a une forme d'incapacité à gérer les perdants, à dire qu'au fond, globalement, ça va être mieux pour tout le monde et c'est pas très grave s'il y a des pertes. En fait, on ne sait pas faire ce que Trump sait faire aux États-Unis, où il dit bon, on va faire des droits de douane, ça va augmenter les prix, c'est pas très grave, mais c'est pour.
C'est un peu la même chose avec les accords commerciaux internationaux de libre-échange.
On ne sait pas gérer ça. C'est peut-être lié au fait qu'on a une telle intervention publique dans l'économie que de toute façon les gens ils s'y retrouvent plus. Il faut bien voir que une fois les prélèvements pris sur les salaires, etc., les gens ont assez peu de marge pour se retourner. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'épargne, mais l'épargne est surtout soit chez les très très aisés, soit chez les retraités. Mais le travailleur moyen il a relativement peu d'épargne. Et donc, si on lui prend quelque chose, ben, il va le sentir à la fin du mois. C'est aussi ça, la leçon des gilets jaunes, etc. C'est que les gens, en fait, avaient du mal à se retourner dès qu'on changeait un petit peu les paramètres du système. Après, ce qu'il faut bien comprendre sur le diagnostic, quand même, c'est que les effets de, comment dire, passer du travail au non-travail seraient des incitatifs, ou en tout cas feraient perdre, ça a été quand même largement réglé sur le passé.
Maintenant,
c'est-à-dire en fait que justement la prime d'activité a permis d'assurer que quand on travaille plus, on gagne plus de manière générale. Enfin, pardon, qu'on passe du non-travail au travail.
Ah oui.
On gagne plus.
Vraiment plus grâce à la prime d'activité.
Le sujet, c'est quand on travaille un peu plus ou quand on fait des gains de productivité. C'est là où en fait des fois, c'est très compliqué. Par exemple, quand on augmente le nombre d'heures par mois en temps partiel, là. On n'est pas toujours gagnant, mais il y a parfois certaines situations où justement la combinaison de toutes ces aides fait qu'on perd au passage.
Ah oui.
Et donc c'est pas vraiment du non-travail au travail, mais c'est plutôt du travailler plus au travailler plus et au travailler mieux que ce système-là devient un frein. Et puis après, bon, il y a la question qu'on augmente les salaires, les résultats du rapport Bozio-Wassmer, c'est le fait que quand on augmente, qu'on s'éloigne un petit peu du SMIC, ben, une grosse partie quand même prend soit en prélèvement supplémentaire, soit en moindres aides. Et en fait, le point central, c'est qu'on a voulu augmenter le niveau de vie des personnes sans emploi, c'est-à-dire c'est tout à l'honneur de la France, c'est de réduire le niveau de pauvreté. Mais par contre, le salaire médian, par exemple, lui, il est fixé par le marché.
Oui.
Parce qu'en fait, il reflète la production économique médiane de l'économie. Et donc, en fait, on a réduit ce corridor.
On a tassé, bah oui, alors, hein, et d'où le sentiment de déclassement de beaucoup de Français dont le salaire pendant un certain temps, en fait,
on a voulu inciter au maximum au retour à l'emploi, mais on se rend compte que l'effet pervers, c'est qu'une fois qu'on est en emploi, mais travailler plus, ça rapporte pas beaucoup. Et c'est ça le sujet, au fond.
Ouais, sur le plan budgétaire, je crois que les aides et minima sociaux dans un budget, c'est à peu près 30 milliards. C'est énorme, mais si on prend tous les dispositifs d'aide...
La prime d'activité, c'est 12 milliards.
On est autour de 90 milliards si on prend tous les dispositifs d'aide. Donc là, en fait, c'est sur le plan budgétaire et sur le plan politique, on parle là du pognon de dingue qu'évoquait
Emmanuel Macron il y a quelques années.
Voilà. Et si on revient sur l'idée de cette allocation sociale unique, on voit bien que cette étude d'impact que s'est procuré le Monde, le signal que ça renvoie quand même entre les gagnants et les perdants pour arriver à une somme nulle, c'est que on prend à des gens qui gagnent un peu pour donner aux gens qui gagnent pas du tout.
Ouais.
Et ça, c'est quand même assez dévastateur comme signal.
Donc, ça veut dire que si on veut réformer, il va falloir payer, quoi. Dans le kilorier, c'est souvent ce qu'on dit, hein.
Alors, je pense qu'il va falloir payer, mais pour faire des dépenses peut-être plus efficaces, parce que je pense que ce que n'adresse pas, en fait, cette solution, c'est tout le problème, notamment, du logement. Enfin, moi, j'ai pas l'impression, en fait, qu'en changeant, en fait, ce système-là, on remet, par exemple, pour moi, il y a vraiment un sujet, notamment sur les appels, sur la location, en fait, entre les différents
récipiendaires. Le Monde du logement est plutôt contre. La Caisse nationale des allocations familiales s'est réunie le 9 avril. Ils sont contre. Mmh. Et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prônent aussi plutôt l'abstention.
Parce que ça ne répond pas justement à toutes ces problématiques-là, alors qu'en principe, les appels eux, c'est spécifique. Après, c'est mal calibré. Il faudra vraiment faire une refonte complète du système. Et quand on se réfère à l'expérience qui a été menée, notamment au Royaume-Uni, mais il y a maintenant 10 ans, qui a été plus ou moins similaire, hein, de vouloir tout unifier.
Ah oui.
Les coûts que ça devait représenter, parce que c'est aussi ce qui est mis en avant, c'est que le coût en fait de tout mettre sous une forme de guichet unique va permettre des économies d'échelle. Au Royaume-Uni, ça s'est pas avéré. Je crois qu'ils ont dépassé de 45% l'enveloppe et que le temps de mise en place,
c'est pas une paille,
ça a été trois fois plus long que ce qu'ils avaient espéré. Et là où ça a été mené avec plus d'efficacité, c'était un petit peu moins ambitieux. Et je pense que sur la réforme en tant que telle, de vouloir faire, moi je suis très favorable à quelque chose qui fasse une pierre deux coups. Mais là, il y a peut-être une pierre deux coups, trois coups, quatre coups avec ce type de réforme. Et j'ai du mal à imaginer qu'on arrivera à remplir tous les objectifs. Et la question du logement, pour moi, elle est beaucoup plus centrale et ça n'y répond complètement pas.
Olivier, ce que nous dit là Victor, c'est que on poursuit trop d'objectifs qui ne fonctionneront pas. Bref, que ça n'est pas efficace, non, cette allocation sociale unique.
Non, mais surtout sur le logement, on a un vrai sujet d'offre. Et là, en fait, alors vu effectivement des bailleurs sociaux ou autres, ils seront sans doute, ils seront perdants de l'affaire. Mais perdant, mais aussi c'est le logement en entier qui va perdre, parce que de fait, si on réduit la rentabilité économique des logements construits, ben à un moment donné, ça va encore accroître le déficit d'investissement qu'on a là-dedans. Donc c'est le vrai sujet sur le logement, c'est qu'on appuie un peu quand même sur le frein et l'accélérateur en même temps, parce que d'un côté, on veut soutenir la demande en faisant des stop and go, et de l'autre, on ajoute des normes, on ajoute des contraintes. En fait, on fait des chocs d'offres négatifs, et ça, c'est un peu un non-sens. En fait, c'est le logement, il est un peu au cœur des contradictions des politiques publiques.
Oui, Mathieu. Pour ou contre cette allocation sociale unique, c'est un peu ça le sujet. Est-ce que c'est efficace, quoi? On se dit finalement, c'est très porté politiquement.
On est sur un vieux serpent de mer, et je pense qu'il y a quand même une urgence à simplifier le système, et que oui, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Clairement.
Bon. Ben, ce sera le mot de la fin pour ce débat. On va passer à l'IA maintenant, les amis, avec cette idée qui, moi, je trouve, au gré de mes rencontres et ce que je peux lire aussi dans la presse, une montée de l'angoisse sur le marché de l'emploi, mais y compris à assez haut niveau. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une job apocalypse? Il y avait une interview croisée de Philippe Aguillon, notre prix Nobel d'économie, qui défend l'innovation, lui, évidemment, et les bienfaits pour la productivité de l'intelligence artificielle, et de Roni Chatterjee, que je ne connaissais pas, qui est le chef économiste d'OpenAI. C'était dans les échos en fin de semaine, sous la plume de notre camarade Guillaume de Calignon. Ils disent tous les deux qu'on ne voit pas encore les effets négatifs de l'IA sur l'emploi que beaucoup annoncent. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez Olivier, je commence avec vous. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec eux?
Moi j'ai un gros étonnement sur cette inquiétude sur l'IA. On se plaint régulièrement, on dit on manque de levier de croissance. Un des gros sujets, on n'arrive pas à augmenter les salaires, c'est qu'on n'a pas de gains de productivité. Justement, l'IA peut nous apporter d'énormes gains de productivité. Je pense qu'on a tendance à regarder le verre à moitié vide et à oublier la bouteille pleine à côté. En fait, il y a une étude, deux études que je vais me permettre de citer, oui, qui vont dans ce sens. Au niveau macro, la Commission européenne, alors dans le gros package de ses prévisions, elle a fait quelques pages d'une étude basée sur une enquête sur les gains de l'IA. En fait, c'est basé sur un sondage auprès de tous les consommateurs européens. Et en fait, ce qui s'en déduit, c'est que les gens qui ont répondu, les Européens en moyenne, estiment qu'ils vont gagner à peu près 7 heures de travail par mois grâce à l'IA. Donc ça fait un gain de productivité qui est conséquent et qui se traduirait au niveau macroéconomique par 1,5 point de PIB en plus, de productivité en plus. Donc du coup, en fait, ça nous aiderait bien, en fait, si ça se réalisait. Et à l'autre opposé, là je vais regarder un angle un peu plus micro. Oui. Rexeco des BPI France publie régulièrement un baromètre auprès des entreprises, et lors du dernier baromètre publié la semaine dernière, dont c'est à peu près un gros millier de TPE PME qu'on interroge régulièrement, on leur a posé la question de l'IA. Et en fait, ce qui ressortait, c'est qu'une très grande majorité d'entre eux déjà l'utilisent régulièrement. Une fois par
on est en train d'entrer dans cette période. Hein. C'est vrai que ça fait 3 ans à peu près que ChatGPT a débarqué dans nos vies, mais dans les entreprises, on a l'impression que c'est vraiment maintenant le sujet.
Ce qui est intéressant, c'est que ces TPE-PME, une majorité d'entre elles, une large majorité, prévoit des gains substantiels sur la productivité, sur la rentabilité, sur le chiffre d'affaires d'ici 2030.
C'est vrai qu'elle était plutôt optimiste, cette étude.
Et en fait, il y a assez peu d'effets négatifs sur l'emploi. Je pense que le sujet de l'emploi, il est certes important, il va y avoir des transformations, mais la vraie inquiétude, c'est de rater la révolution de l'IA, parce que là, en fait, si on ne fait pas des gains de productivité qui sont faits ailleurs, qui sont faits aux États-Unis ou en Chine, en fait, le sentiment de déclassement européen, ce ne sera pas qu'un sentiment.
Bon, on voit quand même, Victor, les plans sociaux se multiplier, hein, sous couvert d'IA. On a eu JP Morgan il y a quelques jours, 7 ou 8 000 postes. Oracle, c'est 30 000 suppressions de postes. HP, il y en a eu des milliers aussi. Comment vous voyez les choses, vous ?
Alors, c'est que dans la lignée un peu de ces chiffres-là, il y a une étude de COFAS qui a été publiée en avril qui montrait que près de 7% des tâches en France pouvaient être entièrement automatisables par les agents.
Je crois qu'il parlait même de 5 millions d'emplois menacés à assez court terme, hein, d'ici 2030.
Mais alors, moi, ce que j'ai un peu plus du mal à voir, c'est effectivement, il y a les gains de productivité, il faut savoir absolument les utiliser parce que c'est ce qui a pu expliquer l'écart notamment de productivité, de gains de productivité entre les États-Unis après la révolution numérique. Mais si notre point de comparaison, c'est la révolution numérique, moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de créations, enfin de nouvelles formations, des métiers ont disparu, mais d'autres ont été remplacés, et généralement les métiers qui ont disparu étaient plutôt à faible valeur ajoutée, et qui ont pu permettre aussi l'éclosion de nouveaux services. Et j'ai du mal à voir pourquoi en fait les gains de productivité qui vont être associés vont automatiquement se répercuter en destruction d'emplois en fait net. Donc moi j'ai un peu, mais c'est un peu difficile, et tout va dépendre justement du gain de productivité qu'il crée. Moi ce qu'on lit aussi, c'est que certes il y a cet écart de productivité entre Europe et États-Unis, mais c'est que par rapport à ce qui était annoncé par rapport à l'ère du numérique avant que la bulle d'Internet explose, etc., il y a eu des gains de productivité nets, mais ils n'ont pas été aussi élevés que ce que prévoyaient les économistes, les macroéconomistes,
les microéconomistes. Oui, puis on les voit pas toujours, hein. C'est le paradoxe de Solow, c'est que la technologie peut arriver sans qu'on voit forcément les gains de productivité. Olivier, et puis après.
Non, mais d'ailleurs, si on revient sur le numérique, ce qu'on voit, c'est que le numérique, ça a surtout créé de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles activités. Et en fait, certes, il y a eu sans doute des gens qui ont perdu à ce moment-là leur emploi. Par exemple, on n'a plus de magasins de location vidéo. Mais ça, est-ce que ça s'est traduit par des baisses nettes d'emploi? Non, parce qu'en fait, il y a eu d'autres services qui sont développés, et à la fin, tout le monde est gagnant. Le potentiel de l'IA, en fait, c'est justement, et des nouvelles technologies de manière générale, c'est d'étendre le panel de produits et de services disponibles. En fait, ça va permettre de mieux mobiliser les ressources de l'économie, notamment les ressources en emploi, pour produire davantage de services, pour vendre plus globalement et pour rendre plus de gens utiles à l'économie.
Il y a un exemple intéressant en Chine, Mathieu, je trouve.
Oui, il y a un exemple intéressant.
On vient de réguler Pékin pousse à l'utilisation de l'IA et en même temps régule les licenciements.
Il y a eu deux décisions de tribunaux 2025 et 2026, notamment le tribunal de Hangzhou finalement a condamné le licenciement d'un salarié chinois qui avait été licencié sur un motif d'intelligence artificielle qui pouvait le remplacer. Voilà. Et en fait, il y a eu deux décisions de justice là-bas en disant non, le progrès technologique lié à l'intelligence artificielle ne doit pas être invoqué pour remplacer un travail.
Étonnant. Ça se décision, moi, il pousse à l'utilisation de partout dans les entreprises.
Moi, je pense là-dessus, ce sujet de l'IA, c'est vraiment quelque chose qui personnellement m'euphorise totalement. Mais plus on avance, plus c'est totalement vertigineux. Et en fait, la puissance à venir potentielle de l'IA va avoir un impact assez colossal. Il faut regarder ce que disent en ce moment les gourous de l'IA dans la Silicon Valley. Sam Altman et ses compères, ils sont en train de, j'ai le sentiment que c'est un peu en urgence, ils sont en train de jouer une petite musique autour d'un contrat social à redéfinir autour de l'IA, parce qu'ils ont bien compris justement que il va y avoir pour le coup un impact. Potentiellement, on va rentrer dans une ère où la machine sera plus puissante que l'homme. dans beaucoup de secteurs,
oui.
Que ça touchera aussi l'école blanc, que ça
d'abord et avant tout,
ouais. Que c'est pas de la science-fiction, que c'est demain, et donc c'est pour ça qu'on entend cette petite musique sur où on sent qu'ils ont besoin de rassurer tout le monde en disant bon bah écoutez d'accord, on va gagner énormément en gains de productivité, la machine elle va vous remplacer, regardons comment fiscaliser cette machine pour pouvoir financer nos loisirs, c'est un sujet parmi beaucoup d'autres, ce revenu universel etc. qui a été chiffré au dollar près, hein. Il a fait une étude d'impact, Sam Altman, en Californie,
oui.
Il est imaginé pour chaque citoyen californien un revenu universel qui est un revenu universel de la naissance jusqu'à sa mort qui serait de je crois de 12 000 et quelques dollars etc. qui serait financé uniquement par la fiscalisation des robots et de l'IA. Et vous regardez et dernière chose, c'est vraiment un sujet qui devient ultra politique aux États-Unis quand vous regardez Steve Bannon qui était l'éminence grise de Donald Trump à l'origine d'ailleurs de la prise du Capitole. Il vient de signer une lettre avec une soixantaine de personnalités aux États-Unis qui a l'air d'être une nouvelle doctrine insufflée par Steve Bannon en vue des midterms et de la prochaine présidentielle. Et l'idée, c'est de changer America First par Human First. Et donc, en fait, cette doctrine...
La poussée humaniste de Steve Bannon.
Oui.
On l'avait pas vu.
Oui. Oui. Et donc, en fait, Steve Bannon est en train de prendre ce courant techno-négatif, sachant que les techno-optimistes sont une partie de l'électorat qui a porté Donald Trump au pouvoir. Et donc, lui, il est en train de dire, attention, ça va toucher aussi l'école blanche, ça va toucher tout le monde. Et donc, celui qui a fait le programme de Donald Trump pour parler à tout l'électorat de la Rose Belt etc. est en train d'embarquer avec lui sur un fond toujours populiste etc. aussi l'école blanc sur le thème United First sur l'IA.
Donc non, moi je trouve que c'est un discours qui monte aussi hein, de ce côté-ci de l'Atlantique effectivement chez des, ou Jean-Marie Messier encore dimanche dans la Tribune dimanche me semble-t-il évoque avec quelques angoisses cette montée de l'IA. Est-ce qu'il faut qu'on pose un cadre, vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de l'exemple chinois? Moi, je ne vois pas comment on va.
J'ai l'impression que ça
va limiter la productivité et l'amélioration de l'efficacité économique des entreprises. Ça me paraît compliqué quand même.
Non, je pense que il faudrait aller voir les raisons spécifiques, mais en Chine aussi, il y a de la politique.
Ah bien sûr, c'est voilà, du dirigisme. Donc, hein, vous appliquez l'IA, mais vous gardez les salariés.
Nous, il se trouve qu'on a un droit du travail qui est toujours encore largement étriqué, et dont d'ailleurs les réformes récentes, et là je vais citer une étude de Banque de France sortie la semaine dernière, a permis de donner un petit peu d'air. Mais on est loin, en fait, on reste
oui.
un marché du travail qui est très réglementé, très régulé. Il faut quand même se dire que les quelques réformes que bon, parfois on a souvent oubliées de l'ère Macron, c'est-à-dire les ordonnances, la formation professionnelle, la réforme des allocations au chômage, si on croit l'estimation de la Banque de France, ça aurait réduit le chômage structurel, c'est-à-dire hors effet du cycle, lors de 1,1 point. C'est énorme, en fait.
Oui.
Et donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on aurait peut-être... Il est encore élevé,
ça fonctionne.
Le chômage structurel. Il est toujours autour, il est supérieur à 7%. Donc, on voudrait peut-être le baisser davantage. On voudrait peut-être plutôt faciliter la réallocation des ressources de travail dans l'économie plutôt que de la rebloquer. Peut-être qu'il ne faut pas... On n'est pas non plus dans le même marché du travail qu'en Chine ou aux États-Unis.
Oui.
Après, pour répondre sur Sam Altman et puis Bannon, etc.,
oui.
je pense qu'il y a deux sujets qui sont un sujet américo-américain. Eux, ils ont de la valeur ajoutée créée massivement par des boîtes d'IA. On n'en est pas là. Donc ces sujets-là, en fait, au fond, comment on anime un marché du travail américain et comment on fait vivre des Américains, en fait, OpenAI ou autres, ils ne vont pas nous faire des transferts fiscaux vers nous. Donc nous, on a un vrai sujet de rattrapage de la productivité. Après, si on se plonge dans le contexte américain, bon, on voit bien, par ailleurs, alors je vais être un petit peu cynique, mais on voit bien la crainte du côté de Sam Altman ou d'autres de voir que l'IA soit déflationniste comme le numérique l'a été dans le passé. Parce qu'à la fin, la façon dont le numérique a traditionnellement rendu de la richesse à l'économie, ça n'a pas été par du revenu universel.
En baissant les prix.
Ça a été en baissant les prix. Sauf qu'on voit bien qu'ils ont un enjeu de garder des prix relativement élevés pour solvabiliser les investissements. Donc, d'où cette réflexion, sans doute, sur une sorte de Fordisme 2.0 pour redistribuer la richesse créée et éviter d'avoir des prix trop bas et des sujets de, comment dire, de valorisation et de financement complexes.
Le chef économiste d'OpenAI nous explique dans l'interview croisée là, des Échos, il dit l'usage de ChatGPT au travail est une chose, Victor Le Quillorier, mais lorsque l'on aura des IA agentiques, l'impact sur l'entreprise sera d'une autre nature. Est-ce que c'est pas ça le game changer au final? C'est ces fameux agents qui viennent bosser pour vous. On voit ce que peut faire Claude d'Anthropic aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça qui va tout changer?
Ce qui va tout changer, ouais, c'est à partir de quel moment les entreprises seront en mesure d'absorber en fait cette technologie. C'est ce qui fait la grosse différence, notamment en France, qu'on a pas mal de retard sur le numérique, notamment sur les... sur, par exemple, rien que des entreprises qui ont des sites, enfin, ça a beaucoup augmenté, mais on voit qu'on a quand même du retard et ça pose des questions aussi en termes d'investissement dans les infrastructures numériques tout court, que ça soit la 5G, etc. Si on a vraiment une crainte sur, effectivement, que ça révolutionne notre mode organisationnel au niveau de la société, au niveau du travail, bah, si c'est ça la crainte, ça veut dire que la meilleure réponse, c'est tout ce qui est formation, et je parle formation au sens large, que ce soit oui. au niveau de l'éducation,
oui.
pour justement faciliter ce que les nouvelles cohortes de personnes qui vont entrer sur le marché du travail puissent être suffisamment autonomes pour se brouiller sans l'IA, mais aussi ça ait une maîtrise de l'IA qui leur permettrait...
Oui, ce n'est vraiment pas le cas aujourd'hui, hein, effectivement.
Et que si on a peur aussi que ça soit sur ceux qui sont déjà en emploi, bah, que c'est les questions de formation continue. Et on revient un petit peu sur les sujets qu'on... du tout début, c'est aussi ce qui marche pour préserver le salaire et augmenter le salaire brut et net dans certains pays, c'est que ce système de formation continue. Mais ça, c'est une question de priorité, et que si en France, on compte toujours s'appuyer sur l'administration publique pour accompagner ça, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience et il faut avoir un peu plus de marge qu'on en a actuellement. Mais effectivement, il ne faut pas le train, il faut le prendre.
Ouais, je pense que au-delà du débat éthique et social, là le maître mot c'est investir. Il faut il faut investir. Juste un mot, c'est que vous avez Meta, Microsoft, Google et Amazon à L4 cette année, elles auront investi autant que ce qu'on a investi dans l'économie française.
Bon, ben voilà. C'est une autre échelle, hein, et ce sera le mot de la fin. Merci tous les trois pour cette émission disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est La France à tout pour réussir, animé par Jérôme Tichy. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.